Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous pour un nouveau numéro d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, qui va nous emmener dans un pays au cœur de nombreux enjeux du moment sur le continent africain, le Mali, dirigé depuis juin 2021 par une junte militaire et qui tente, avec ses acteurs économiques, de se développer grâce à ses points forts, les matières premières, l'élevage, la culture du coton, malgré aussi quelques handicaps, son enclavement, les problèmes d'accès à l'énergie, le déficit d'infrastructures ou encore une pauvreté structurelle. Le taux d'extrême pauvreté au Mali s'est encore accéléré avec la crise sécuritaire et avec les conséquences de la pandémie de Covid. À cela s'ajoute un bras de fer politique et une rupture entre les pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, dont fait partie le Mali, et la CEDEAO, l'organisation régionale. Alors que Bamako avait déjà pris ses distances avec la France, l'ancienne puissance coloniale. Au cœur du sujet, une volonté de souveraineté, y compris économique, ouvertement affichée au début de l'année 2024 par le Premier ministre de transition, Choguel Maïga, devant les organisations patronales et l'ensemble des acteurs économiques.
Si vous entendez souveraineté militaire, oui, mais la souveraineté économique, celui qui ne l'a pas, vous êtes en train de parler. Pour avoir la souveraineté économique, vous ne pouvez pas le faire sans un accord, une complicité positive avec le monde des affaires. À ce niveau aussi, nous comptons sur vous, sur votre ingéniosité. Tous les théoriciens de l'économie avaient prévu en janvier 2022 que notre gouvernement allait tomber. Les opérateurs économiques maliens n'ont pas parlé, ils ont agi. Et on a vu les résultats. Notre réussite, en grande partie, dépend de vous. Nous gagnerons cette bataille de la souveraineté, Inch'Allah, avec l'engagement de tous et de tous.
Choguel Maïga devant les acteurs économiques maliens, dont le président du Conseil national du patronat Mossadegh Bali, le fondateur de la chaîne hôtelière régionale Azalaï. Il sera notre invité exceptionnel dans quelques minutes pour explorer toutes ces thématiques. La croissance économique, les attentes du secteur privé, les investissements étrangers, la présence des entreprises françaises, mais aussi certaines difficultés comme l'accès à l'énergie, les tensions entre les pays sahéliens et côtiers, les conséquences d'une sortie des États de l'AES, de la CEDEAO ou encore le projet de création d'une monnaie sahélienne, l'abandon du franc CFA. Le patronat malien face à la crise, un entretien à voir en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. D'autres infos sur notre page Facebook RFI Echo, RFI ECO. Bonne émission à toutes et à tous. Avant notre entretien très riche avec Mossadegh Bali, faisons d'abord un point rapide avec un économiste malien que vous entendez régulièrement dans cette émission, Modibo Maoumakalou, basé à Bamako et de passage à Paris pour une conférence sur le développement du Mali. Voici son analyse de la conjoncture actuelle. Il est au micro de Charlotte Cosset du service économie de RFI.
La situation économique, elle est mitigée, mais évidemment nous avons eu de très bons résultats par rapport à la culture cotonnière et des céréales.
Autre secteur qui se porte bien, l'élevage ?
L'élevage se porte très bien et comme vous le savez, nous avons quand même le second plus important cheptel de l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, il va falloir faire des efforts pour quand même augmenter la valeur ajoutée dans ce secteur en créant davantage de viande, de peau, de cuir et aussi du lait parce que évidemment, nous avons très peu d'abattoirs et nous faisons très peu de transformation, alors que quand vous transformez, vous augmentez les revenus des producteurs, de la filière et aussi vous créez des emplois dans ce secteur. Mais la difficulté essentielle, c'est l'accès à l'électricité, le déficit énergétique. Vous savez, nous avons 350 MW de déficit énergétique et actuellement, le mix énergétique est en grande partie du thermique, basé sur du thermique, donc le carburant, dont le prix a augmenté et évidemment la compagnie malienne de fourniture de l'énergie énergie du Mali a des difficultés pour acquérir ce carburant et ça cause des délestages et vous savez que l'accès à l'électricité a un impact direct sur l'activité économique et évidemment c'est cela le bémol.
On a su le mesurer, ça, cet impact sur le développement des activités?
Oui, le développement socio-économique, mais aussi même la sécurité, parce que vous savez, l'économie malienne étant largement informelle, mais ce sont les secteurs non seulement formels et informels qui sont quand même frappés par ces délestages, mais aussi vous avez les activités sociales aussi, les hôpitaux, les centres de santé. L'électricité, ça coûte cher et évidemment les investissements sont très lourds. Pour le moment, je pense que la solution se trouve dans l'énergie renouvelable et en l'occurrence le solaire et l'hydroélectricité.
L'économiste malien Modibo Mao Makalou qui répondait aux questions de Charlotte Cosset. Dans ce contexte, que peut faire et que doit faire le Mali? On en parle dans quelques instants avec le patron des patrons, Mossadegh Bali. Avant cela, voici Flows, les Amazones d'Afrique, groupe de femmes formé au Mali en 2015. Les Amazones d'Afrique sur RFI. C'est l'heure de parler à notre invité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Notre invité est un grand voyageur. Il développe d'ailleurs son activité dans le tourisme, l'hôtellerie, plus précisément en Afrique. C'est le fondateur de la chaîne Azalaï, présente dans de nombreux pays du continent. Il est aussi le président du Conseil national du patronat malien. Vous avez reconnu Mossadegh Bali. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous recevoir avec Julien Clémenceau, chef du service économie. Bonjour Julien.
Bonjour Bruno.
Nous allons recueillir vos analyses sur l'actualité riche en Afrique de l'Ouest en général, au Sahel et dans votre pays, le Mali en particulier. Avec Julien, nous allons aborder beaucoup de thématiques économique, monétaire, parfois aux confins de la politique et de la géopolitique. On va parler aussi de la jeunesse en Afrique. D'abord, quelques mots de votre parcours de vie.
Mossadegh Bali, vous êtes né en 1961 à Niamey, au sein d'une grande famille de commerçants originaires du Nord Mali. Après des études en France et aux États-Unis, à l'université de San Francisco, vous rejoignez les affaires familiales à Bamako au milieu des années 80. Pendant presque 10 ans, vous travaillez dans l'import-export. À cette période, avec 15 personnes, l'entreprise du clan Bali réalise 150 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Quel souvenir vous avez de cette époque? C'est votre père qui dirigeait l'entreprise. Il vous a donné des conseils pour réussir pour la suite?
Ah oui, je dis d'ailleurs à mes enfants que mon vrai diplôme d'école de commerce, c'est pendant ces 10 ans que j'ai passé à côté d'un grand manager. Un grand coach, un grand mentor. J'ai beaucoup appris à ses côtés dans le négoce. On apprend beaucoup dans le négoce, à parler aux banques, à structurer des dossiers de financement, à distribuer, à recouvrer. Je garde des très, très bons souvenirs de ces 10 ans passés à côté de mon père.
S'il y avait un conseil dont vous vous souvenez, un conseil précis qu'il vous aurait donné à l'époque?
Il m'a dit, le plus grand capital d'un entrepreneur, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas le capital financier, c'est la confiance que les autres placent en vous. Et donc, il faut mériter cette confiance, il faut cultiver cette confiance. Et après, sky is the limit.
À l'époque, donc, des revenus très confortables. Mais cette réussite, elle ne vous satisfait pas pleinement. Vous voulez développer un projet, une activité qui créerait des emplois, qui impliquerait des investissements. Et c'est comme ça que vous vous lancez dans l'aventure d'Azalaï en 1993. Une chaîne hôtelière 100% africaine pour un public africain. Alors, dès le départ, vous avez l'idée, et c'est beaucoup plus admis aujourd'hui, que les entrepreneurs du continent doivent proposer des solutions endogènes, hein, ne pas attendre que les investisseurs extérieurs tentent de répondre à leurs besoins.
Oui, tout à fait. Quand j'ai fait mon introspection et que j'ai vu que je souhaitais et je voulais avoir plus d'impact économique et social, et ça, je ne l'avais pas dans le négoce, où effectivement, les chiffres étaient impressionnants, mais avec une petite équipe, j'ai décidé de me lancer dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie après avoir considéré un projet dans l'agro-industrie. Et je ne voulais pas être un investisseur, c'est-à-dire acheter le grand hôtel de Bamako, le rénover et signer un contrat de gestion avec une grande chaîne internationale. Ce que m'avait conseillé d'ailleurs à l'époque un banquier européen qui travaillait à Bamako.
C'est ce qui se fait encore beaucoup, hein?
Oui, c'est ça qui se fait encore beaucoup. Mais bon, le groupe Azalaï est quand même un groupe pionnier. Depuis, il y a d'autres hommes d'affaires africains.
Oui, Irimso qui a
développé. CC Comé, le groupe Onomo. Donc ça prouve que notre business model était juste. Une chaîne hôtelière panafricaine, créée avec des capitaux africains et gérée par des compétences africaines, c'était tout à fait réalisable et 30 ans après, on l'a réalisé.
Oui, parce que désormais, vous exploitez 11 hôtels sous la marque Azalaï, mais aussi Dounia, qui emploient plus d'un millier de personnes.
Tout à fait.
Et votre dernier établissement, vous l'avez inauguré en novembre 2023 à Dakar, un hôtel 5 étoiles qui a nécessité 28 milliards de francs CFA d'investissement, c'est ça?
Oui, absolument. C'est un projet emblématique pour le groupe Azalaï. C'est vrai qu'il a pris beaucoup de temps, 200 chambres aux standards internationaux. Et c'est un hôtel qui, petit à petit, prend sa place sur le marché sénégalais.
Est-ce que la situation du Sénégal, ça vous inquiète, vous, en tant que Malien et qu'investisseur?
Vous savez, en tant qu'investisseur, chaque fois qu'il y a un peu de bruit, d'instabilité, comme on dit, l'argent n'aime pas le bruit. Et les gens investissent dans des pays où il y a de la stabilité. Le Sénégal est un pays formidablement stable, surtout dans l'environnement régional ouest-africain. Oui, on sent un peu l'impact de tout cela. On a quelques annulations de manifestations, de réservations, ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, quand il y a eu les attentats à Paris, ben, les gens ne venaient plus à Paris. Donc, ce n'est pas uniquement en Afrique, c'est partout. Les gens ne viennent plus pendant un certain temps. C'est pareil, à Dakar, on sent des annulations. Mais moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je pense que l'économie sénégalaise a un très bel avenir. Et d'ailleurs, les prévisions du FMI prédisent un taux de croissance de 8% en 2025 pour le Sénégal.
Votre prochaine ouverture, c'est une réouverture, en fait. C'est à Ouagadougou. Néanmoins, le développement d'Azalaï a été ralenti. Est-ce que c'est le Covid qui a ralenti votre développement?
Effectivement, et d'ailleurs, je profite de ce plateau et de votre micro pour dire que souvent, nos économies ne sont pas ralenties par les crises institutionnelles, les crises politiques. Certes, ça les ralentit un peu, mais nous, on a beaucoup plus souffert des 3 ans de pandémie que de toute cette instabilité qu'on a vécue dans les différents pays. Parce que lorsque la pandémie est arrivée dans notre zone en mars 2020, on a dû fermer tous nos hôtels, sauf un seul hôtel à Bamako qui est loué par l'Union européenne et où il y a l'état-major de l'EITM. Donc c'est juste pour vous dire qu'une crise sanitaire est souvent beaucoup plus dommageable pour l'économie de nos pays qu'une crise institutionnelle, genre coup d'État ou crise sécuritaire.
On va en parler, mais aujourd'hui, effectivement, c'est plus le Covid qui secoue les économies, ce sont les conséquences de la guerre en Ukraine, l'inflation généralisée, la dépréciation de certaines monnaies, et puis ces dernières années aussi la multiplication des coups d'État dans les pays francophones. en aussi peu de temps, on ne l'avait jamais vu. Et ça concerne notamment votre pays, le Mali, et ses entreprises que vous représentez. Et dans ce contexte, vous, vous prenez la direction du patronat.
Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure ?
Alors, je ne me suis pas lancé. J'étais dans mon bureau, des collègues entrepreneurs sont venus me voir parce que le Conseil national du patronat du Mali a traversé une crise profonde issue d'élections contestées. Ensuite, ça a été judiciarisé et pendant presque 3 ans, la fêtière du secteur privé malien a été paralysée par cette crise. Les groupements professionnels, il y en a 38 qui sont membres du CNPM et les 7 CPR, les conseils patronaux de région, ont décidé de prendre le taureau par les cornes, ont écarté les 2 protagonistes, ont mis en place une administration provisoire et cette administration provisoire qui a duré 6 mois a légèrement toiletté les textes pour pouvoir aller aux élections. Et c'est là que le président du bureau provisoire et son adjoint, ils sont venus me voir pour me proposer de faire partir du nouveau bureau et d'être tête de liste aux élections. J'ai réfléchi, j'ai toujours refusé d'occuper ce genre de poste public, semi-public, parce que j'étais plutôt concentré sur le développement du groupe Azalaï qui me prenait tout mon temps, toute mon énergie. Mmh. Et là, j'ai donné mon accord parce que moi-même, personnellement, sur le groupe Azalaï, je suis beaucoup moins opérationnel maintenant, donc j'ai dégagé du temps que je comptais consacrer à moi-même, à ma famille, à mes petits-enfants. Et là, j'ai dit, OK, c'est ma famille professionnelle. C'est une famille professionnelle qui est dans une crise profonde. Si je peux apporter quelque chose. Et là, donc, j'ai accepté.
Vous diriez que les plaies se sont refermées au sein du patronat malien ?
Oui, tout à fait. Parce que l'une des premières actions que le nouveau bureau a menées, c'était de faire le tour de tous les groupements professionnels, de ses anciens présidents, pour dire que nous sommes sortis de cette crise. Maintenant, nous voulons aller de l'avant. Ce qui nous unit, c'est surtout se battre pour que l'environnement des affaires au Mali soit incitatif.
Eh bien, justement, un patronat au service de l'économie malienne, une question de Julien Clémenceau.
Oui, la crise, elle est plus politique, elle est sécuritaire. Comment vous qualifieriez la situation économique du Mali dans ce contexte ?
Alors, c'est une économie qui a montré beaucoup de signes de résilience, qui évolue depuis plus d'une décennie dans des crises multiples. Crise sécuritaire, ça a commencé d'abord par l'enlèvement des otages, ce qui a tué par exemple le tourisme de loisirs, à Mopti, Djenné, tout cela. Ensuite, ça a été la crise sécuritaire et l'occupation du nord, de tout le nord du Mali pendant presque 1 an. Ensuite, ça a été des crises institutionnelles avec le coup d'État de 2012, 2020. La crise internationale avec l'inflation importée suite à la guerre Russie-Ukraine, pour la première fois, on a frôlé une inflation à 2 chiffres au Mali, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. La crise sanitaire, on a eu Ebola, on a eu Covid. Et puis, bien sûr, toutes les sanctions, sanctions CDAO, sanctions IEMOA. Malgré tout cela, l'économie a continué à tourner, les marchés étaient approvisionnés, il n'y avait pas de ligne dans les stations pour avoir du carburant, ce qu'on voit dans des pays qui ne sont pas en crise institutionnelle. Donc je dirais quand même que les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques ont montré leur courage, leur imagination pour faire face à toutes ces crises-là. Sauf qu'à un moment donné, même cette résilience s'essouffle.
Alors malgré tout, d'un point de vue comptable, les chiffres de la croissance sont plutôt bons. Hein. On est au-delà de 4%, 4,5% pour 2023. Les prévisions pour 2024, 4,8%.
Tout à fait.
Ça vous rassure, ça vous encourage ?
Mais oui, bien sûr. En fait, le Mali, le taux de croissance est, je dirais, intimement lié à la production agricole. C'est un pays à vocation agro-silvopastorale. Mmh. Dès que nous avons une bonne récolte, notamment du coton, des céréales, nous avons aussi un secteur minier qui est très dynamique. Mmh. Donc dès que ce secteur minier, la production d'or s'accroît, ben voilà, ce taux mécaniquement augmente. Sauf que, et ça on ne le constate pas qu'au Mali, dans beaucoup de pays, croissance économique ne veut pas dire inclusion économique, ne veut pas dire réduction de la pauvreté. Parce que le plus grand problème du Mali, c'est quoi ? C'est qu'on a quand même une démographie qui est très vigoureuse, 3,16%. Ça veut dire que chaque 25 ans, on double. Aujourd'hui, on est 22 millions de Maliens bientôt, dans 25 ans, nous serons 40 millions. Or, les économistes disent que pour couvrir 3,16% de croissance démographique, il faut au minimum 7% de croissance économique. Et pour l'instant, on n'atteint pas ces 7%. Et d'où l'objectif du CNPM, c'est de faire du plaidoyer pour que l'environnement des affaires soit incitatif, pour que non seulement nous ayons des IDE, des investissements directs étrangers, mais aussi des IDN, des investissements directs nationaux, pour atteindre ce taux de croissance de 7%.
Les IDE, c'est peut-être difficile dans le contexte actuel. Est-ce que, par exemple, les miniers se sentent bien, se sentent prêts à investir au Mali actuellement? Donc, le Mali, c'est le deuxième producteur d'or Afrique.
Les miniers n'ont pas désinvesti, malgré toutes ces crises que j'ai citées tantôt. La production d'or continue d'augmenter au Mali. Il faut dire que l'industrie extractive n'est pas corrélée à l'économie nationale et aux vicissitudes politiques et sécuritaires. D'ailleurs, ce sont des mines qui sont situées dans des zones où il n'y a pas l'insécurité, en tout cas pour l'instant. Et donc, c'est extrait et c'est exporté.
C'est ce que j'allais dire, parce que la sécurité, quand même, ça peut les inquiéter. Même si c'est décorrélé de l'économie réelle et de la vie de Monsieur Tout-le-Monde ou de Madame Tout-le-Monde, il y a quand même cet aspect sécuritaire, il est important.
Vous savez, la particularité des entrepreneurs, c'est que c'est des gens très flexibles qui s'adaptent à beaucoup de situations. Mmh. Et donc, oui, les miniers, depuis une dizaine d'années, ont adopté de nouvelles façons de travailler, ont renforcé la sécurité. Donc, les mines continuent de fonctionner correctement.
Au-delà de ce secteur minier, quels sont les secteurs qui sont les plus affectés par l'avancée des groupes terroristes, par les questions d'insécurité?
Déjà, l'industrie du tourisme, qui est complètement morte, le tourisme de loisirs, on avait trois sites qui étaient très fréquentés, le pays d'Ogon, Djéné, Mopti, la Venise malienne, Tombouctou, et on avait même du tourisme du désert,
au-delà de Gao,
etc. Tout cela. Ça, c'est mort. Ça n'a pas commencé aujourd'hui ou hier, c'était déjà lorsqu'il y a eu les premiers enlèvements de touristes européens. Il y a toujours du tourisme d'affaires, mais essentiellement à Bamako. Il y a aussi le fait que les ONG ne pouvant plus opérer au Mali, c'était quand même une source de revenus pour beaucoup d'hôtels, de restaurants et tout cela. Donc ça aussi, l'activité a beaucoup baissé.
Et dans d'autres secteurs?
Alors, dans d'autres secteurs, l'agriculture continue, mais sauf que elle n'est pas moderne, l'agriculture. Il faudrait la moderniser.
Et puis en plus, pour aller au champ, il faut quand même un minimum de sécurité.
Alors, effectivement, et ça c'est le gros souci au niveau de l'agriculture, c'est que dans le centre, il y a beaucoup de villages, malheureusement, qui n'ont plus accès à leur champ du fait de l'insécurité, même si c'est qu'on constate quand même, parfois il y a des arrangements entre les villageois et ces groupes armés terroristes qui permettent aux villageois d'aller à leur champ. Et ça, effectivement, ça peut impacter, si on ne trouve pas une solution pérenne, ça peut impacter la production agricole du Mali.
Vous trouvez que la situation, de ce point de vue-là, est plus inquiétante qu'elle ne l'était au temps d'Ibeka, d'Ibrahim Boubacar Keïta?
Non, il y a une amélioration, indéniablement. Depuis le coup d'État, puisque c'est quand même des militaires qui dirigent le pays, ils connaissent les faiblesses de l'appareil sécuritaire. Ils ont quand même beaucoup investi dans l'appareil sécuritaire. Donc, sur le plan sécuritaire, on peut dire que l'agenda a été considérablement avancé. Mais on sait aussi...
Ça n'empêche pas les attaques. Il y a eu une attaque très importante il y a un mois, à 300 km au nord de Bamako.
Oui, tout à fait. Ça n'empêche pas les attaques. On le sait, une guerre asymétrique, c'est toujours comme ça. Vous ne savez jamais d'où peut venir l'ennemi. Mais on sait aussi que la force est un élément de dissuasion et de négociation. Donc, oui, il faut investir dans l'appareil sécuritaire. Oui, il faut contrôler tout le territoire. Mais dans l'optique de s'asseoir autour d'une table entre Maliens pour gagner cette fois-ci la paix. On peut gagner des batailles militaires. Mais pour gagner la paix, une paix pérenne et définitive, il faut impérativement un dialogue entre les Maliens.
Il faut négocier.
Il faut négocier.
Moussa Degbali, parmi les difficultés du moment pour la population malienne, il y a aussi des coupures d'électricité à Bamako et dans tout le pays, pour les ménages, pour les entreprises aussi. C'est une difficulté supplémentaire?
Ah oui, clairement. Aujourd'hui, c'est vrai que les populations souffrent du manque d'électricité. Les entreprises souffrent du manque d'électricité. Il n'y a pas longtemps, j'ai visité une entreprise, une minoterie. qui dépense tous les jours 5 000 € en gasoil et a même été obligé de changer ces groupes qui étaient des groupes de secours pour acheter des groupes de production pour ne pas arrêter sa production de farine qui est aujourd'hui une denrée indispensable pour l'alimentation.
Et donc, qu'est-ce que vous faites pour eux ?
Ah ben nous, au niveau du CNPM, nous avons, dès que nous nous sommes installés, nous avons mis en place 5 groupes de travail. Nous avons réfléchi sur l'énergie, les ressources humaines, les infrastructures, la fiscalité et le financement. Et le groupe énergie a fait des suggestions pour sortir de cette crise. En fait, cette crise énergétique, c'est une crise, de non-prévision. On n'avait pas de vision de quoi avons-nous besoin dans 10, 15, 20 ans. La demande croît chaque année de 10% et on n'a pas prévu de satisfaire cette demande. Et deux, de mauvaise gouvernance du secteur dans son ensemble.
Et donc, qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, nous, ce que nous proposons, c'est de renforcer la production d'énergie par des acteurs privés en révisant la loi PPP qui existe au Mali, mais qui est une loi qui n'est pas incitative, en mettant en place un guichet unique des PPP staffé avec des gens très compétents, recrutés sur appel à candidature, pour que la production d'énergie soit totalement privatisée.
Julien a évoqué la crise institutionnelle. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de date fixée pour l'organisation d'élections au Mali. Est-ce que cette transition qui se prolonge, est-ce qu'elle n'est pas trop pénalisante ? Est-ce que le pays peut s'en accommoder, vous, en tant qu'acteur économique ?
Est-ce qu'on peut rester avec une transition sans fin ?
Non, pas du tout. Aucun pays ne peut s'accommoder d'une transition sans fin. Parce qu'un investisseur, qu'il soit étranger ou malien, il a besoin de quoi ? La sécurité et la stabilité institutionnelle pour décider d'investir dans le pays. Ensuite, il y a tous les facteurs de production, de compétitivité, l'énergie, ressources humaines et tout cela. L'agenda sécuritaire a considérablement avancé depuis presque 4 ans maintenant que nous sommes dans une transition. Maintenant, nous faisons confiance au gouvernement. Le ministre d'État, au mois de juin dernier, a dit « nous reportons les élections parce qu'on avait des problèmes techniques ». Donc nous faisons entièrement confiance au gouvernement, aux gouvernants, aux décideurs politiques pour trouver la bonne fenêtre, le bon moment pour organiser ces élections parce que la stabilité institutionnelle et le développement socio-économique sont consubstantiels. On ne peut pas les séparer. Donc nous disons aux décideurs politiques, à nos autorités, nous sommes les preneurs de risques, nous avons besoin de visibilité. Nous pensons que le retour à l'ordre constitutionnel, d'ailleurs qui n'a jamais été remis en cause par les autorités, encore le président de la transition l'a dit dans son discours de fin d'année, et c'est acté dans la nouvelle constitution. On n'a pas remis en cause le modèle de multipartisme et de démocratie, ça n'a pas été remis en cause. Donc ça, c'est absolument indispensable. Maintenant, c'est eux qui sont aux commandes, qui connaissent les réalités du pays. C'est à eux de voir la fenêtre d'opportunité pour organiser ces élections. Entre-temps, nous, en tant que chefs d'entreprise, nous allons continuer à gérer nos entreprises. Mais c'est vrai que le retour à l'ordre constitutionnel favoriserait grandement les investissements, qu'ils soient IDE ou IDN.
Et vous restez dans l'économie.
Nous restons dans l'économie.
Moi, Sadek Bali, président du Conseil national du patronat malien, est notre invité sur RFI. Nous allons parler des relations avec les autres pays en Afrique et ailleurs dans le monde. Après votre choix musical, Sadek Bali, Ali Farka Touré en duo avec Oumou Sangaré, autre star de la chanson au Mali. Voici Chérie. Chérie, Ali Farka Touré avec Oumou Sangaré, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Sadek Bali ?
Ali Farka Touré a bercé ma jeunesse. D'ailleurs, quand je l'écoute, c'est avec beaucoup d'émotion. C'était un ami personnel, paix à son âme. Et il continue d'ailleurs de représenter la quintessence même de ce qu'est le Mali. Mm-hmm. Ali Farka Touré, c'est un sonraï. C'est un Peul, c'est un Bambara, c'est un Arabe, c'est un Touareg. Il a chanté dans toutes ces langues-là. pour moi, il représente la valeur malienne, l'unité dans la diversité. Et c'est pour cela que je suis très heureux de l'écouter. Avec une autre diva, d'ailleurs, Oumou Sangaré, qui est une fierté malienne et africaine que j'écoute beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup de la musique africaine, surtout quand je fais mon sport le matin. Et invariablement, j'écoute Alif Arka Touré, Oumou Sangaré, Salif Keita, Kader Tarhani. Voilà, ce sont... C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai écouté, surtout que c'est une chanson sur l'amour, sur la solidarité. Et aujourd'hui, plus que jamais, le Mali a besoin de se retrouver, d'être solidaire et de se réconcilier avec lui-même.
Alors, se réconcilier avec lui-même et avec les autres pays dans le monde. La junte au pouvoir a souhaité le départ des militaires français, a pris cette distance avec Paris. De manière très claire, Mossadegh Bali, est-ce que dans ce contexte, les entreprises françaises ont encore leur place dans votre pays ?
Oui, tout à fait. Toutes les entreprises qui souhaitent investir au Mali ont leur place parce qu'il y a une...
Tout le monde ne dit pas ça dans votre pays.
Oui, mais il y a une économie. Il y a des besoins à satisfaire, il y a des marchandises à produire et à vendre, il y a de la production. Donc toutes les entreprises qui respectent le Mali, qui respectent le choix du Mali, qui trouvent l'environnement des affaires incitatif, peuvent investir au Mali. Il n'y a aucune loi qui interdit à qui que ce soit d'investir au Mali.
Et ces entreprises françaises comment vous les percevez ? Est-ce qu'elles ont justement montré cette envie d'investir selon les règles, selon vous, au cours des... depuis 10, 20 ans, 30 ans ?
Oui, les entreprises françaises ont toujours été présentes au Mali. Il y avait Bolloré, bon, maintenant qui est suisso-italien. Vous avez toujours Total qui est là, vous avez Sogea Satom. Vous avez des... Ça, c'est des multinationales, mais vous avez aussi... des hommes et des femmes d'affaires de nationalité française qui vivent au Mali, qui ont leurs entreprises. Certains ont même fondé des foyers au Mali. Vous savez, il n'y a pas de problème entre le Mali et la France. Il y a juste un rejet de la politique du gouvernement français dans nos pays, et notamment le Mali. Donc c'est ce rejet qui a amené, je dirais, cette brouille, cette rupture entre les gouvernants. Mais on a plus de 200 000 franco-maliens, on a des entrepreneurs français installés au Mali depuis 40 ans. Voilà, il n'y a pas de problème.
Alors, si Bamako a rompu avec les autorités françaises, Bamako s'est rapproché des Russes et annonce sa volonté de développer un certain nombre de partenariats. On a entendu parler du spatial, du nucléaire. Est-ce que concrètement, aujourd'hui au Mali, il y a des sociétés russes qui investissent, qui cherchent à s'implanter, qui développent des projets ?
Oui, certainement. Je n'en ai pas connaissance, puisqu'il y a une agence de promotion des investissements, qui est une agence étatique qui reçoit les investisseurs. Donc, eux, ils seront mieux à même de vous dire s'il y a des investisseurs russes. Parce que ce qu'il faudrait clarifier, c'est qu'une fois qu'une entreprise est constituée au Mali, c'est une entreprise de droit malien qui respecte la loi malienne, qui paye la fiscalité malienne. Cette entreprise a les mêmes devoirs et les mêmes obligations qu'une entreprise créée par un Malien. Sauf qu'on peut dire que cette entreprise, les capitaux sont russes, américains, français, à 100% ou à 50%, on ne sait pas. Et Mossadegh Bali a créé une entreprise, c'est un Malien, les capitaux sont maliens. Mais toute entreprise qui décide d'investir au Mali, d'avoir des activités au Mali, d'employer des Maliens...
Et constitué au Mali.
Et constitué au Mali est une entreprise qui est là au bénéfice de l'économie malienne.
Mais vous le sauriez s'il y avait des Russes qui investissaient, parce que nécessairement, ils chercheraient des partenaires maliens. C'est ce qu'on fait toujours quand on vient de l'étranger. On fait rentrer des partenaires du pays.
Ah, peut-être qu'il y a des Russes qui sont, au moment où je vous parle sur ce plateau, qui sont au Mali, qui cherchent à investir dans divers secteurs. D'accord. Et qui veulent s'associer à des Maliens, certainement. Je ne suis pas au courant de tout. Le CNPM ne reçoit pas les investisseurs. Mmh. C'est le rôle de l'État et notamment de l'API. Mais nous, effectivement, nous avons des investisseurs qui viennent nous parler.
Alors, il y a d'autres nouveaux pays, justement, qui viennent via leurs entreprises s'installer au Mali ?
Ah oui, vous savez, l'économie malienne est une économie ouverte.
Quel pays, par exemple ?
Vous avez la Turquie, oui. Vous avez beaucoup de Chinois, surtout dans le domaine extractif. Vous avez des Brésiliens, vous avez des Africains de l'Ouest aussi qui viennent investir, vous avez des Marocains. Récemment, il y a une usine de ciment qui a été lancée par le groupe CIMAF au Mali. Vous avez, par exemple, un entrepreneur burkinabé qui est en train de construire une cimenterie au Mali. Donc oui, c'est une économie qui est ouverte. Il n'y a pas de barrière.
Les Marocains sont des partenaires importants. On a vu qu'ils voulaient offrir des débouchés sur l'Atlantique aux pays sahéliens. En tout cas, il y a l'idée d'un grand partenariat avec les pays du Sahel.
Oui, c'est une excellente idée. Je pense que les pays du Sahel devraient profiter de cette offre marocaine. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de barrières. Et la première, la plus importante, c'est l'infrastructure. Comment faire pour faire presque 2000 kilomètres pour aller, par exemple, de Bamako jusqu'à Dakhla? Il y a des routes, mais bon, ce n'est pas encore...
C'était un projet à 25 ans.
Oui, exactement.
Voilà qui nous amène à notre sujet suivant. Nous allons parler de la situation économique régionale en Afrique de l'Ouest. L'actualité de ce début d'année 2024, c'est la volonté du Mali, mais aussi du Burkina Faso et du Niger, dirigé par des militaires, de sortir de la CEDEAO, l'organisation régionale. Comment a réagi la communauté des affaires maliennes et les communautés des affaires des pays concernés?
Alors, les pays concernés, je ne sais pas. Nous sommes en train de nous concerter pour essayer de faire une réunion entre les présidents des patronats pour voir un peu les conséquences de ces décisions de ces trois pays. Mais nous, au Mali, ce qu'on a fait immédiatement après l'annonce de la décision, nous avons mis en place une task force qu'on appelait Task Force CEDEAO. Nous voulons donner dans les plus brefs délais, j'espère dans quelques semaines, au gouvernement une analyse des conséquences économiques de cette décision. Les avantages et comment les renforcer, et les inconvénients, qu'est-ce que l'État peut faire pour atténuer ces inconvénients. Nous sommes aujourd'hui dans cette dynamique-là.
Quel est votre sentiment sur cette démarche? Déjà, est-ce que vous l'aviez anticipé, cette possible sortie de la CEDEAO?
Oui, parce que je pense que les décideurs politiques en avaient parlé. On s'y attendait peut-être pas maintenant, mais on s'y attendait un peu. Par contre, en tant qu'acteur économique, en tant que décideur économique, on aurait souhaité être associé, tout au moins informé, ce qui n'a pas été le cas. Mais ça, on l'a dépassé maintenant. C'est une décision qui est là.
Ça aurait permis d'accompagner les entreprises
Je
au
pense
même
que voilà, ça aurait permis peut-être de préparer déjà ce travail de réflexion qu'on est en train de faire en amont et donner au gouvernement, disons, une analyse des entrepreneurs sur cette décision qui allait être prise. Mais aujourd'hui, elle est prise. Nous, les entrepreneurs, nous allons faire en sorte qu'on ressorte les avantages et les inconvénients.
Qui va y perdre le plus, selon vous, là, en tout cas à moyen terme? Écoutez, les pays de l'Alliance des États du Sahel ou écoutez, la CEDEAO dans son ensemble?
Dans son ensemble. Moi, je pense que les 15 pays de la CEDEAO vont perdre si jamais cette décision, elle est vraiment matérialisée. Parce que n'oublions pas que la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975 à Abuja. Et son objectif, c'était de créer une zone économique pour avoir une intégration économique. Liberté de mouvement, des biens, des personnes, tarifs extérieurs communs. Tout ceci, presque 50 ans après, il y a eu des avancées réelles. Moi, aujourd'hui, je peux aller dans ces 15 pays sans un visa. Je peux m'installer partout où je veux. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a eu des avancées sur l'intégration économique. Malheureusement, à partir de 1999, avec les protocoles additionnels, 1999 et ensuite Dakar 2001, on a mis du politique dans ça.
Et ça, vous regrettez qu'elle soit devenue politique?
C'est pas que je regrette qu'elle soit devenue politique, parce que je pense aussi que la bonne gouvernance, la démocratie, les libertés individuelles participent aussi de la prospérité économique. Sauf que lorsqu'on a commencé à utiliser ces protocoles pour punir, pour sanctionner, là, on est sorti de la vision originelle des pères fondateurs de la CEDEAO.
C'est des critiques qui sont répandues au-delà même des pays sahéliens. Il y a des gens qui pensent ça en
sûr.
Afrique de l'Ouest.
Mais bien sûr, le président Talon a dit exactement la même chose il n'y a pas longtemps. Moi, en tant que citoyen de la CEDEAO, citoyen malien, je pense qu'on doit revenir à la vision originelle qui est de réaliser l'intégration complète de la CEDEAO et ensuite marcher vers la monnaie commune, l'éco.
Alors, on va parler des questions monétaires, justement. Il y a la CEDEAO, il y a l'UMOA. Pour l'instant, l'essentiel est préservé, c'est ce
oui,
qu'on pourrait
dire. Oui, l'essentiel est préservé et nous souhaitons que ça le reste. Nous l'avons dit à nos autorités. Nous pensons que sortir de l'UMOA et sortir du CFA, ça peut se faire. Peut-être même que c'est quelque chose qui est envisagé, je ne sais pas. Mais ça se prépare. Ça se prépare. C'est quelque chose qu'il ne faut pas précipiter au risque vraiment de plonger nos économies dans une zone de turbulence, de très, très grande turbulence.
Est-ce qu'on peut quand même totalement exclure le fait qu'à un moment donné, l'AES veuille créer sa propre monnaie ?
Non, on ne peut pas l'exclure. Je pense que les autorités politiques des trois pays ont quand même évoqué la question. On ne peut pas l'exclure. Mais moi, je dis, c'est quelque chose qui doit être très bien préparé. On ne sort pas d'une zone monétaire comme ça. Il faut très bien...
Parce que vous-même, vous demandiez, il y a quelques années, la réforme du CFA.
Ah oui, absolument. Mmh. Absolument. Moi, je suis convaincu que le CFA doit être réformé. Je suis convaincu que nous devons préparer, pas notre sortie, mais la fixité, nous devons en sortir. Mais il faut préparer cela. Je suis partisan d'avoir l'écho comme monnaie commune et unique pour les 15 pays de la CEDEAO, mais ça prendra beaucoup de temps. Mmh. Quand on voit d'ailleurs...
Donc, en attendant, on pourrait faire une monnaie juste dans l'AES, en attendant l'écho ?
Écoutez, si les décideurs politiques décident de cela, nous, en tant qu'entrepreneurs, nous ne pouvons pas nous y opposer. Mais nous disons simplement, parce que nous sommes les conseillers des décideurs politiques, nous disons simplement que c'est quelque chose qui est très complexe. La monnaie, c'est quelque chose de très complexe. J'entends tout et n'importe quoi là-dessus venant des gens qui ne sont pas des spécialistes en la matière. Et il ne faut pas se précipiter. Ou alors, je dirais, il faut se précipiter lentement. Voilà.
Aujourd'hui, compte tenu des difficultés de la crise institutionnelle et de la défiance aussi que certains ont à l'égard des juntes militaires, le Mali a des difficultés à se financer, peut pas aller facilement sur le marché, y compris le marché régional. Est-ce que ça ne génère pas chez vous des inquiétudes quant aux investissements publics ? On parlait tout à l'heure des difficultés dans l'électricité, c'est l'électricité, ce sont les routes. Si l'État n'a plus d'argent, si l'État survit, l'État ne peut plus investir et la population, elle augmente, les besoins augmentent, la pauvreté s'installe.
Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison, M. Clémenceau. Aujourd'hui, l'État du Mali va régulièrement sur le marché monétaire. D'où d'ailleurs, une des raisons essentielles pour ne pas se précipiter pour sortir de la zone CFA, c'est qu'aujourd'hui, le déficit budgétaire est en grande partie financé par les levées de fonds sur le marché monétaire de l'IMO. On a, sur la loi des finances 2024, un déficit budgétaire d'environ 700 milliards de francs CFA, et en grande partie financé par les émissions du trésor public malien, puisque le Mali n'a plus d'appui budgétaire. Depuis qu'on est en transition, il n'y a plus d'appui budgétaire. Donc, on a intérêt, justement, à rester dans cette zone-là. Alors, on lève des fonds à des coûts, effectivement, qui sont de plus en plus élevés, et à très court terme, et c'est juste pas tenable dans le moyen de long terme. Donc ça nous inquiète. Ça fait aussi qu'il n'y a plus de budget d'investissement au Mali, parce que l'État n'a pas les moyens d'investir.
Il n'y a plus de budget d'investissement.
Il n'y a quasiment plus de budget d'investissement. Les recettes internes qui sont de l'ordre d'environ 2000 milliards de francs CFA, un peu plus de la moitié les impôts et un peu moins de la moitié les droits de porte, la douane, c'est environ 2000 milliards. Il y a déjà 1 000 milliards bouffés par les salaires, les pensions et tout cela. Donc, c'est pour vous dire un peu les difficultés. Et le reste, la priorité est donnée à l'appareil sécuritaire. Donc, il n'y a plus d'investissement public. C'est pour cela aussi que nous faisons un plaidoyer pour que la loi PPP soit revue pour attirer justement de l'investissement privé qui va compenser le manque d'investissement public.
Davantage de partenariats public-privé.
Exactement.
Mossadegh Bali, si on revient à l'économie réelle, après avoir parlé de la finance, le coton malien a besoin de débouchés via les ports régionaux, plus au sud. L'agriculture aussi, les produits agricoles ont besoin de ça. Est-ce qu'il y a un scénario entre guillemets catastrophe où effectivement le Mali serait privé de ses débouchés ?
Non, pas du tout. Ben, il faudrait aussi dire que ces ports-là vivent grâce aux pays qu'on appelle les pays de l'Interland. Le port de Cotonou ne peut pas vivre sans le trafic sur le Niger. Le port de San Pedro, le port de Dakar, le port d'Abidjan, une grosse partie de leur chiffre d'affaires est réalisée avec le Burkina et le Mali. Il ne faut pas oublier que même si demain, effectivement, nous sortons de la CEDEAO, nous restons quand même dans l'UEMOA, avec tous les avantages. Donc, nous pouvons utiliser les ports de l'UEMOA, donc Dakar, San Pedro, Abidjan, Lomé, Cotonou. Nous restons dans l'UEMOA. Vous savez, ces pays-là, c'est pour ça que je dis une sortie effective de ces trois pays, c'est les 15 pays qui perdent. Mmh. Les trois pays, c'est aussi des débouchés. Le Mali est le premier client de la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire a intérêt à ce que le Mali reste son premier client. C'est pour ça que nous, les entrepreneurs, nous nous approprions l'appel du président Yacoubou Gone. Il a fait un appel très sage, très pertinent. Il a dit que sa génération n'accepterait pas que l'idéal d'intégration économique et ultérieurement monétaire soit bafoué, que la génération actuelle, donc nous, nous n'acceptons pas non plus que cette belle vision d'intégration soit mise de côté, et surtout les futures générations. Donc c'est pour ça que nous, les entrepreneurs, nous souhaitons que la grande famille de la CEDEAO se réunisse. Peut-être que momentanément, mettre de côté les protocoles additionnels, la politique, la gouvernance, pour que chaque pays puisse retrouver son équilibre institutionnel, sécuritaire, et que l'intégration économique a donné des résultats. On aurait pu faire beaucoup mieux, c'est clair, mais qui a quand même donné des résultats, puisse continuer. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain.
Est-ce que dans le contexte actuel, vous voyez des jeunes se lancer autre chose que l'import-export, hein, mais se lancer comme vous l'avez fait, dans des projets industriels? Est-ce qu'ils ont le courage de le faire? Parce que la période, elle est vraiment chahutée.
Oui, de plus en plus. Alors moi, j'ai le plaisir de faire beaucoup de coaching et de mentoring. Et je peux vous dire que tous les jeunes, quasiment tous les jeunes qui viennent me voir, aucun d'eux ne vient me voir pour me dire « Monsieur Bali, aidez-moi à importer un conteneur de la Chine ». Tous viennent avec des projets dans l'agro-industrie, dans les industries culturelles. Sincèrement, c'est la tendance aujourd'hui, parce que je pense que les jeunes ont compris que ce n'est pas en important des conteneurs de Chine, de Turquie ou de Brésil qu'on va développer nos pays. C'est en transformant notre formidable potentiel économique. Il y a des obstacles, mais aujourd'hui, moi, je constate que l'entrepreneuriat, il y a quelques générations, les gens sortaient de l'école, ils voulaient être fonctionnaires. Aujourd'hui, les gens savent qu'ils ne peuvent pas être fonctionnaires, donc ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Et en tant que président du patronat, je m'en réjouis.
Les industries culturelles et la jeunesse, puisque nous en parlons, un autre de vos choix musicaux, la nouvelle perle de la musique, Touareg, Kader Taranine, très écouté par les jeunes au Sahara. Voici ce titre, Inistia. Inisdiam Kader Taranine, choix musical de notre invité, Mossadegh Bali, fondateur des hôtels Azalaï et président du patronat malien. Qu'est-ce que vous en dites?
Ah, c'est un jeune que j'apprécie beaucoup. J'apprécie sa musique, le ton, qui pour moi rappelle ma jeunesse, mon enfance à Tombouctou, sur les dunes. C'est très poétique, la mélodie, mais surtout c'est la jeunesse. Kader Taranine représente la jeunesse. Et moi, je pense que pour un pays dont la population est à 70% jeune, plus que jamais, on doit s'intéresser à cette jeunesse, la former. On a une très forte inadéquation entre la formation qu'on donne aux jeunes, qui est très généraliste. Vous voulez un RH au Mali, vous allez recevoir 2000 CV, mais vous voulez un électricien qualifié, vous en aurez peut-être deux ou trois. Donc, il faut revoir la formation des jeunes. Donc, Kader Taranine, pour moi, je dirais l'avenir du Mali, et c'est aussi un artiste éclectique qui représente le Mali dans toute sa diversité.
L'optimiste et l'énergique Mossadegh Bali était l'invité de RFI. Merci d'être passé par nos studios.
Merci à vous.
Entretien à écouter sur notre chaîne YouTube. Merci à vous également, Julien Clémenceau.
Merci, Bruno.
Des photographies de ce tournage sur notre page Facebook RFI Echo. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.